Merci. En effet, troisième table ronde des nouvelles technologies au service des ICC, point d'interrogation. Donc, nous allons nous intéresser plus précisément à l'emploi de l'intelligence artificielle, nous demander de quelle manière elle percute les industries culturelles et créatives, tenter d'identifier des problématiques plus fines pour des secteurs qui pourraient être amenés à vraiment radicalement changer, et se pencher en effet sur les possibles effets pervers, mais aussi les ressources que ces technologies peuvent constituer. Alors, nous sommes avec Laurent Courreau, auteur, réalisateur, journaliste indépendant, artiste visuel et numérique. Vous travaillez sur les mutations technologiques, artistiques et culturelles. Vous avez créé le magazine culturel web La Spirale au milieu des années 90. Puis Mutation Magazine en ligne aussi, mais qui deviendra également papier début 2025. Rémi Sussan, vous êtes journaliste, essayiste, spécialisé dans les nouvelles technologies et les imaginaires futuristes. Lucie Marigny est toujours avec nous. Et Thierry Murat, auteur de bande dessinée, illustrateur, auteur notamment de Cerveau augmenté, humanité diminuée, un essai graphique sur les relations homme-machine, écrit avec le philosophe Miguel Benassayag et publié aux éditions Delcourt La Découverte. Vous avez ensuite fait paraître Initial A sous le label indépendant Logout, un roman graphique réalisé avec une intelligence artificielle générative d'images et qui devait paraître chez un grand éditeur, mais qui a été annulé en cours de route. Nous en reparlerons plus en détail, évidemment. Alors, Laurent Courreau, peut-être qu'on peut commencer avec vous, puisque vous observez depuis longtemps les mutations technologiques, artistiques et culturelles, et vous utilisez aussi ces nouvelles technologies. Aujourd'hui, donc, l'IA. La question pour commencer, peut-être, si on tente de prendre un tout petit peu de recul, c'est peut-être de se demander en fait comment qualifier ce que l'on vit de ce point de vue et ce que vit le secteur des industries culturelles et créatives, quelles sont en fait les nouvelles questions s'il y en a ou renouvelées que pose l'emploi de l'IA.
Alors nous en parlions sur le pont avec Rémi à l'instant, nous ne sommes pas complètement d'accord d'ailleurs. C'est-à-dire que l'IA à ce stade-là pour moi c'est avant tout une gigantesque photocopieuse, très intelligente, qui permet de reproduire des images, des textes et du son de manière très rapide et très efficace. Voilà, donc ce qui nous amène finalement à une question quasiment éternelle dans les industries culturelles, qui est celle de la reproduction. Les industries culturelles sont nées avec la reproduction de textes avec le livre, ensuite la reproduction d'enregistrements phonographiques, et puis par la suite, bien sûr, l'audiovisuel, et enfin le numérique. Donc reproduction mécanique, reproduction numérique. Et aujourd'hui, nous en sommes au point, effectivement, où on a un outil qui est encore relativement balbutiant, de mon point de vue. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à avoir une récurrence des images sur des séquences longues, avoir un personnage reproduit avec ses vêtements dans différents environnements et avec ce qu'un dessinateur pourrait faire de manière assez naturelle. C'est encore pire dans le cas de l'audiovisuel, où on arrive à avoir des séquences, mais encore moins de récurrence entre deux séquences vidéo. Donc on est sur un outil balbutiant, mais par contre, effectivement, d'un point de vue industriel, qui intéresse énormément les industriels, puisque potentiellement, ça peut leur permettre de se débarrasser des auteurs, des créateurs et des artistes, donc de régler la problématique des ayants droit. Sachant que, pour donner un exemple, aujourd'hui, dans l'édition en France, pour un premier roman, dans le meilleur des cas, l'autrice ou l'auteur va toucher 5% sur le prix de vente public. Donc 95% de la somme va partir chez des intermédiaires. Et effectivement, dans le cas de nouveaux contenus numériques, si on arrivait à bypasser les auteurs humains, ce serait banco pour l'industrie.
Un mot avant de continuer, peut-être, vous pouvez nous parler de ce que l'on voit ?
Alors ça, ce sont des expériences que je fais actuellement par rapport à des thématiques qui me sont chères. Le vaudou, le chamanisme, les mythologies, des religions un peu particulières. Alors ce ne sont pas du tout des images que je montre spécialement au public, parce que à mon sens, aujourd'hui, on est encore vraiment dans le domaine de l'expérimentation, de l'expérience, de l'essai. Et justement, ces images-là me semblent vont commencer à être intéressantes.
Expliquez-nous comment vous les réalisez, du coup, pour qu'on comprenne.
Oui, je les réalise, bien sûr, en travaillant à partir de photos, de dessins, d'extraits de films, et dans certains cas, ensuite, en les imprimant, et en redessinant par-dessus, en repeignant par-dessus, et à minima, en tout cas, en les retravaillant en numérique, puisque ce que donne l'intelligence artificielle, de facto, comme ça, est rarement satisfaisant.
On va poursuivre peut-être avec vous, justement, Rémi Susson, en plus, si du coup, sur le pont, vous n'étiez pas d'accord. Mais non, mais c'est vrai que quand on a discuté, vous, ce que vous m'avez dit quand même, c'est qu'il y a vraiment quand même des questions profondes qui sont posées, évidemment, par l'intelligence artificielle, mais que peut-être au point où, en fait, il faudrait réfléchir à une autre forme de culture. Enfin, c'est ce que vous m'avez dit. Peut-être vous pouvez nous expliquer.
Alors, en fait, pas seulement l'intelligence artificielle, parce que c'est un point sur lequel je retrouve Laurent, c'est que pour l'instant, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose de balbutiant, dont on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Hein. Mais effectivement, ce qui est intéressant depuis l'histoire du numérique, mais depuis beaucoup plus longtemps, c'est qu'effectivement, il y a une disjonction entre ce qu'on appelle grosso modo la culture classique et certaines nouvelles idées, certains nouveaux courants qui ne trouvent absolument pas leur place dans cette culture classique. Et je ne parle pas seulement de technologie, je parle de science. Il y a un écrivain qui est un ancien chef de rubrique, un éditeur, c'est chef de rubrique en français, hein, ça, éditeur. Un chef de rubrique de nature, donc qui n'est pas une petite revue quand même, en science, et qui dit, par exemple, on n'a pas réussi à faire pénétrer la physique quantique et la logique de la physique quantique dans la culture. Et on peut parler aussi de la biologie, etc., et de la technologie. Donc effectivement, il y a, et c'est peut-être là le rôle effectivement de, bon, que ça soit ce qu'on appelle les contre-cultures, les pop-cultures, etc., c'est que très souvent, c'est par ce biais, et là, dans la science-fiction, dans les séries de SF, dans les bandes dessinées, etc., que ces nouvelles idées commencent à apparaître. Et je pense que ce qui est effectivement important, c'est peut-être vraiment l'intérêt de ces pop-cultures et de ces contre-cultures, c'est qu'effectivement, elles font passer des idées. Et quand je dis contre-culture, je ne parle pas seulement, effectivement, et c'est pour ça que je parle aussi de pop-culture, c'est-à-dire que je peux parler de choses extrêmement, mainstream, c'est-à-dire ce que vous voyez à la télé, simplement. Vous avez dans les séries comme Doctor Who, pour citer un exemple, dans des séries comme Buffy, des idées extrêmement originales dont vous ne trouverez pas trace dans ce qu'on appelle la culture classique, etc. Donc il y a un lien, effectivement, entre... j'ai employé un mot très prétentieux, qui est le mot paradigme, que les gens adorent et qu'on utilise tous très mal, et moi aussi probablement, mais disons, conception du monde... Il faut effectivement commencer à repenser notre conception du monde et nos conceptions du monde en fonction simplement de ce que nous savons du monde. Et le retard, je dirais, entre nos façons de penser classiques et ce qui se passe aujourd'hui est très ancien. Il y a une phrase de Buckminster Fuller qui écrivait déjà dans les années 30-40 et qui disait « Les scientifiques sont vraiment ignorants et continuent à dire que le soleil se lève ». Oui, le soleil ne se lève pas. Et pourtant, on utilise toujours ces formules qui datent parfois, effectivement, de l'Antiquité. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et donc, c'est intéressant de voir qu'effectivement, on n'a pas le vocabulaire, on n'a pas les outils culturels pour comprendre. Alors, quand quelque chose comme l'IA débarque, hein, et elle débarque assez brutalement, quoique on discutait avec Laurent qu'en réalité c'est pas si jeune que ça, hein, puisque le deep learning, qui est la technique actuelle utilisée par les IA, elle date de 92 avec Geoffrey Hinton, et si on remonte vraiment à l'origine du terme, c'est 1956, c'est quand même quelque chose d'assez vieux, mais effectivement on voit ça arriver, on n'a rien de prêt, et effectivement on n'a pas les moyens simplement de comprendre. Alors on passe d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire que vous avez d'un côté ceux qui vont dire oui, c'est la fin de l'humanité, c'est la fin de la création, voire la fin de l'humanité physiquement, c'est-à-dire avec une espèce de délire à la Skynet, etc., qui est très présent aujourd'hui, ou au contraire, vous avez les positions de ceux qui nous disent ChatGPT va nous rendre immortels, c'est fabuleux, etc. On n'arrive pas à prendre l'outil. Et je pense que c'est un des problèmes qu'on a avec beaucoup de technologies, et je pense effectivement à des technologies qui sont plus anciennes que l'IA, mais qui sont en train d'incorporer l'IA de façon très intéressante, comme par exemple le jeu vidéo. Je crois que récemment, vous m'arrêtez si je me trompe, même Macron nous a fait une sortie en disant « Ah oui, ces jeunes qui sont contaminés par le jeu vidéo » ou quelque chose comme ça. Moi, je veux dire, je suis à l'âge quasiment de la retraite. J'ai vu arriver, j'ai connu les cafés avec des flippers. J'ai vu arriver Pong. J'ai vu arriver Space Invaders. Continue encore aujourd'hui, en 2024, à dire oui, ces jeunes contaminés par les jeux vidéo, alors que c'est ma génération quand même qui a vu les premiers jeux vidéo, ça me choque un peu.
Alors, pour revenir quand même sur l'intelligence artificielle, vous l'avez dit en quelques mots, Laurent Courreau, mais le fait est que ça pose quand même, et au-delà de gagner plus d'argent en supprimant les auteurs, ça pose quand même la question qui n'est pas nouvelle, mais qui est peut-être renouvelée, en effet, du statut de l'auteur et de l'œuvre elle-même aussi en réalité. Donc Thierry Murat, justement, vous êtes auteur, donc c'est intéressant d'avoir aussi cette discussion avec vous du point de vue du créateur. Peut-être qu'on peut revenir donc sur l'aventure de votre ouvrage Initial A en nous expliquant d'abord pourquoi au départ vous avez voulu réaliser ce roman graphique qui est un récit de science-fiction poétique, donc, et pourquoi vous avez voulu le réaliser avec une intelligence artificielle générative d'images, et quel était le sens de cette démarche au départ. Mais peut-être, juste avant que vous répondiez, on va justement avoir un aperçu très rapide de cet ouvrage. Alors, pourquoi vous êtes lancé dans cette aventure ?
2023, c'est le livre qui sort, qui est imprimé. Cette aventure, elle est bien plus vieille. Elle date de l'été 2022, où j'ai vu débarquer Midjourney et toutes les autres intelligences artificielles génératives d'images, comme Dali Mini et Crayon. Et ça n'avait pas tant que ça à la fin de cet été 2022. On était assez peu nombreux, finalement, à... non pas à s'intéresser, je peux pas dire, c'est plutôt un phénomène de curiosité, voilà, voir un espèce de monstre qui arrive et juste aller le toucher, quoi, histoire de peut-être en avoir moins peur. Enfin, moi, c'était mon intuition de départ. Si c'est pour répondre, je sais pas, ça peut être ça la raison.
Mais ensuite, voilà, disons que dans cet ouvrage, il y a un propos qui Et ça arrivait après, voilà,
c'est un vieux scénario.
Et donc, ouais. Et donc le fait que vous ayez choisi cet outil pour ça, oui. C'est pas non plus.
Alors voilà. Oui. Si on reprend les choses dans l'ordre, il y avait un vieux scénario que j'avais écrit en 2019 de SF qui traînait dans un tiroir. J'avais pas enclenché le processus de dessin et puis même la recherche d'un éditeur sérieusement pour mener à bien ce projet. Bref, la liasse de papier de scénario dormait dans un tiroir. Et puis, il y a eu ce livre avec Miguel Benassayag. Ça, c'était une proposition des éditions Delcourt, La Découverte, qui s'associait sur une coédition pour faire de la vulgarisation scientifique. Donc, enfin, pas de la vulgarisation scientifique à proprement parler, de la vulgarisation plutôt sur de la socio, de la politique, sur des sciences sociales essentiellement. C'est des sciences, hein, on est d'accord. Cette collection, elle naissait, on m'a invité à publier un des premiers titres et du coup je me suis laissé embarquer sur... j'ai choisi un titre dans le catalogue de La Découverte et parce que je suis vraiment... à la fois terrifié et fasciné par cette numérisation du monde qui est assez galopante. Du coup, je suis tombé sur un livre de Miguel Benassayag de 2016 qui s'appelle « Cerveau augmenté, humanité diminuée ». Et puis je leur ai dit, ben, moi je veux bien, non pas adapter, mais revisiter, prolonger graphiquement, en faire un objet bande dessinée, bosser sur ce bouquin-là. Ce qu'on a fait avec Miguel, on a travaillé toute l'année 2022... Oui, c'est ça, puis ce fameux été 2022, j'avais fini le livre avec Miguel et Midjourney arrive. D'ailleurs, le dernier chapitre, ChatGPT, pas encore. Mais non, puis sinon, on en aurait parlé dans le livre, on aurait fait la conclusion là-dessus, ça aurait été magistral. Mais manque de bol, à un moment donné, le livre, il faut bien le finir. Il part chez l'imprimeur, il part dans le réseau de distribution et ChatGPT est arrivé après. Dommage. Mais on a quand même fini sur Midjourney. Enfin, moi, j'ai fini sur quelques mots de conclusion sur mon expérimentation. Alors, pas sur ce livre qui était loin d'être terminé et pas du tout commencé. Mais sur quelques essais, quelques tests, comme des récits de pionniers, quoi, un peu. C'est vraiment ça, hein. On était... Moi, le livre, je l'ai fini en septembre. Juillet-août, et puis en septembre, je ne sais plus. Enfin bon, au même moment, au moment où je finissais le livre, je me mettais à tester cet outil de science-fiction. Et du coup, je sors mon vieux scénario de science-fiction et je dis à mon éditeur, qu'est-ce que tu penses de l'idée de dessiner ce récit de SF que tu as déjà lu d'ailleurs, souviens-toi, et de le dessiner avec cet outil de SF qui vient de sortir. Et puis il m'a dit banco, on a signé un contrat, et puis j'ai bossé pendant plusieurs mois. Ouais. Vous me dites si
non, mais c'est trop long. Et puis finalement, et puis en fait, alors que vous aviez votre date de sortir sur votre abattoir,
ouais,
etc.,
le livre était terminé.
Tout était prévu, etc. Ils vous ont dit que finalement, non, quoi.
Ouais, le livre est annulé, ouais. Pour des raisons assez, assez nébuleuses. Éthique, oui. Alors après, on peut convoquer Spinoza pour aller se renseigner qu'est-ce que c'est réellement que l'éthique. Mais alors, non, moi, ils m'ont pas vraiment dit ce... Ils n'ont pas prononcé ce mot. Ils m'ont dit simplement une phrase que publier un tel livre... ce serait envoyer un mauvais signal à la profession. Mmh. Voilà. Et c'était un livre qui était prévu pour la rentrée littéraire de 2023. Donc là, la date est bonne. Et donc, il a été annulé avant Tué dans l'œuf. Voilà. Pour la faire courte.
Alors, la question, du coup, la suite de ça, c'est aussi quels enseignements, en fait, vous avez tirés de cette expérience-là. Il y a cette clairement déconvenue, c'est peut-être même trop faible, ouais, comme mot, enfin, en tout cas, voilà.
Ah ben, génial.
Mais en tant qu'auteur, je veux dire...
C'est expérience géniale, puisque non, ça a abouti sur la publication du livre. Pas vraiment à compte d'auteur, avec, disons, avec une démarche éditoriale personnelle. J'ai monté avec ma compagne Manon, qui a intervenu sur la table ronde d'avant. Voilà, on a monté un petit label In Extremis, un petit label Logout intégré à sa structure éditoriale, et puis on a, contre vents et marées, publié cet ouvrage qui avait été effacé, quoi. Donc.
Et sur ça, votre expérience en tant qu'auteur, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a deux choses que vous m'avez dites quand je vous ai posé cette question, ouais, au téléphone. C'est d'une part, en fait, vous n'avez pas eu pour autant l'impression de ne plus être un auteur. Parce que ça fait partie des questions que
peut
poser.
Ouais, je pense que j'aurais pas pu aller au bout de la démarche si j'avais eu ce ressenti.
Ouais. Et la deuxième chose, peut-être, qui est quelque chose à laquelle on pense moins aisément, c'est le caractère physiquement épuisant quand même de cette expérience.
Ah oui, vous vous souvenez de ça? On avait parlé. Ouais. Non, c'est passionnant comme expérience, parce que une aventure comme j'ai menée, c'est pas juste prompter quelques images comme ça pour épater la galerie sur les réseaux sociaux, hein. J'ai prompté, je sais pas, mais des milliers d'images pour construire un album de bande dessinée. J'ai prompté des images, j'ai pas prompté des planches, j'ai prompté des images. Donc je me suis constitué une matière première d'images, un stock, et ensuite j'ai fait mon travail d'auteur BD, c'est-à-dire d'assemblage des cases, de découpage, de narratif et puis de dialogue, etc. Bon, bref, c'est un gros boulot. C'est 5 mois de boulot, mais c'est au pas de charge. C'est-à-dire que, après, il y avait aussi ce que je ne vous ai pas dit au téléphone la dernière fois, il y a cet aspect un peu diabolique de la machine qui impose un rythme inhumain à l'humain, mais il y avait aussi le délai éditorial du planning. Il y avait l'éditeur qui, avant d'avoir eu l'idée de génie d'annuler le livre, avait super envie de le publier pour faire un bon gros buzz à la rentrée littéraire. Et donc, il m'avait mis un délai assez short, quand même. Mais bon, ce délai était possible, technologiquement parlant. Un délai de 5 mois pour la réalisation d'un album de BD, c'est absolument impossible dans un monde normal, quoi. Il me dit, qu'est-ce que t'en penses? C'est possible? Je dis, ouais. Vu à la vitesse où ça va et vu la qualité du résultat que j'ai déjà obtenu sur quelques images, oui, on peut y aller. Parce que moi, j'avais pas toutes ces nouvelles fonctions qu'on trouve sur les IA génératives d'images aujourd'hui, les SREF, les références qui sont préprogrammées, prémâchées pour le grand public. On a un catalogue de styles qui sont déjà prémâchés, où on clique sur le bouton et on dit fais-moi un cheval dans ce style-là, dans ce style. Mais c'est pas forcément des styles de tel ou tel auteur ou de tel ou tel peintre. C'est des styles qui ont été créés par des artistes prompteurs. Donc Midjourney développe un catalogue phénomène. À l'époque, c'est la préhistoire de Midjourney. Donc tout est prompté à la main, si je peux dire. Enfin, c'est-à-dire toutes les intentions et tous les métissages d'influence, etc., sont réellement promptés par moi. Enfin, il n'y avait pas de bouton prémâchage à l'époque. On était au tout début. C'est vraiment la... C'est pour ça que c'est intéressant. Moi, je suis maintenant avec du recul. Ce qui m'intéresse, c'est le statut de pionnier dans cette histoire-là. Je ne me considère pas comme un spécialiste de l'IA. Mmh. Aujourd'hui, j'en fais toujours un petit peu, mais pas tant que ça. Mon job, c'est d'écrire et de dessiner avant tout. Donc moi, je garde ce souvenir vraiment comme un souvenir de pionnier, comme si j'avais découvert un espèce de continent qui est maintenant totalement colonisé. Il est envahi, ce continent.
Mais voilà, Laurent Courreau, peut-être à la lumière de ce que vient de dire Thierry Murat, et puis aussi du point de vue de votre propre pratique à vous, sur cette question quand même de comment tout ça fait bouger les lignes de qu'est-ce que c'est un auteur, qu'est-ce que c'est une création, qu'est-ce que c'est une création originale.
C'est-à-dire, de toute façon, on est quand même, il n'y a pas de création ex nihilo. On s'inspire toujours de quelque chose d'œuvre précédente. Hein. Non, ce qui me semble intéressant dans le cas de l'IA, et là on est vraiment au début d'une aventure, hein, c'est que cette technologie n'a pas encore été, réellement détournée. Je vais donner un exemple. Hein. En 71, des ingénieurs japonais de la firme Matsushita inventent un tourne-disque avec un moteur particulier et pas une courroie d'entraînement parce qu'ils sont mélomanes, qu'ils aiment la musique classique et le jazz. Hein. Ils n'imaginaient pas du tout que 5 ans plus tard, hein, un immigré jamaïcain dans le Bronx allait inventer le scratching et le hip-hop grâce à leur tourne-disque. Hein. Et c'est une histoire qui se répète finalement dans les liens entre les technologies, les subcultures, les marges, et de quelle manière les marges détournent les objets. Le romancier William Gibson, qui est un peu le pape du cyberpunk, a une phrase très simple pour ça. Il dit « La rue trouve son propre usage pour les choses ». Et je pense que dans le cas de l'IA, on est un peu au début d'une histoire. Et il y a certainement des gamins, des gens quelque part, peut-être à l'autre bout de la planète, qui sont en train d'inventer de nouveaux modes de narration, de nouvelles formes de création dont nous n'avons pas du tout conscience. Hein. Et c'est la beauté de la chose d'ailleurs. Hein. C'est que la culture et l'art sont complètement imprévisibles, hein, et bien heureusement.
Alors, Lucie Marinier, pour le coup, si on regarde ce sujet via la transition écologique, il y a des choses qui nous viennent tout de suite en tête, évidemment, c'est quand même les problèmes du coût énergétique de tout ça, de tout ce que ça représente. Voilà, mais pas que, justement. Donc,
Oui, c'est un peu l'éléphant dans la pièce, mais qui est quand même un gros éléphant. C'est l'aberration écologique du culturel numérique et en particulier de l'IA, qui n'est pas une petite aberration écologique. Et là aussi, on est dans une injonction contradictoire, parce que le souci, c'est que dans le domaine culturel, évidemment, le numérique, c'est un gros problème qui est en train de grossir. Et c'est aussi une part de la solution, notamment par rapport au déplacement, avec beaucoup d'illusions technosolutionnistes en particulier qui existent. Et dans un programme de recherche comme celui-là, on ne peut pas totalement faire l'impasse sur cette question. Et on est un peu obligé de revenir sur le fait que le poids du numérique en gaz à effet de serre, c'est aujourd'hui 3% des gaz à effet de serre. Ça paraît peu, mais ça vient de dépasser le transport aérien et ça sera 6% dans 5 ans. Voilà, donc ça va très très vite, ça va très très fort et l'IA vient d'exploser tout ça. C'est-à-dire que la totalité des GAFAM ont aujourd'hui remis en cause toute leur trajectoire de neutralité carbone. Quand je dis remis en cause, c'est explosé leur trajectoire de neutralité carbone du fait de l'utilisation de l'IA. L'IA, c'est 37 milliards de tonnes de gaz à effet de serre à 5 ans. Je rappelle que c'est une tonne, c'est un aller-retour Paris-New York et que le bilan carbone d'un... Ouais, une à deux, ça dépend si vous avez des bagages ou pas, en fait, pour être vrai. Moi, j'ai beaucoup de robes, donc c'est deux. Voilà. Et de fait, le bilan carbone d'un Français, selon les calculs, là aussi, c'est aussi une histoire de robes, entre 9 et 12 tonnes. Donc, faut avoir en tête que c'est absolument énorme. Et surtout, c'est une question de temps. C'est-à-dire qu'en termes de recherche, il faut pas oublier une chose, c'est qu'on a conscience du poids des données. Mais on a moins conscience de deux choses fondamentales sur le poids écologique du secteur numérique. Bon, d'abord, c'est l'importance de la culture là-dedans. Hein. C'est 60% de la bande passante sont des contenus culturels. Alors là aussi, vous allez me dire, ça dépend si on prend en compte les films pornographiques ou pas. Enfin bon, bref. Mais bon, en gros, c'est ça. Ça, c'est une chose. Et puis ça, surtout. C'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est deux choses. D'abord, pour construire ça, je reprends quelques chiffres parce que c'est quand même important. Donc ça, c'est 1500 litres d'eau. 800 kg de matières premières, 240 kg de combustible fossile et 22 kg de produits chimiques. Et ça, en fait, bon, ça en soi, c'est mal, mais le problème, c'est que ça, dans 30 ans, c'est fini. Et qu'en termes de recul de temps, c'est fini en termes de ressources qui existent. C'est-à-dire que et on peut se dire qu'effectivement, on va trouver des solutions technologiques. On va en trouver. Hein. D'ailleurs, ça a été le cas du transport aérien. La raison pour laquelle c'est beaucoup moins cher aujourd'hui, c'est que de fait, ça consomme beaucoup moins de carburant qu'il y a 20 ans. Le problème, c'est qu'il y a un truc qui est scientifiquement prouvé, qui s'appelle l'effet rebond. Et l'effet rebond, c'est ce qui fait que quand vous avez une innovation technologique, ça a été théorisé au moment de la révolution industrielle sur l'invention de la machine à vapeur. La machine à vapeur n'a pas mis les gens au chômage. Elle a créé plus de consommation, en fait. Et en fait, l'effet rebond, il est inhérent à toute innovation technologique, c'est-à-dire que quand on a une innovation technologique, on consomme plus. Et c'est d'autant plus majeur dans le cas du secteur culturel que les pratiques numériques culturelles sont les plus importantes et les calculs de ce point de vue-là sont assez vertigineux. Alors ça ne veut pas dire que ça ne fait pas partie de la solution, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une tablette, une liseuse bien utilisée, c'est un bilan écologique plus faible que le livre. Enfin, voilà, c'est des choses qui ne sont pas si simples que ça. Simplement, il faut quand même avoir en tête qu'on parle d'une horreur, quoi, c'est-à-dire d'une vraie aberration. Alors à partir de là, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on en fait ? On en fait que c'est notre responsabilité de participer à la recherche sur un contenu numérique culturel éco-responsable. Et il y a beaucoup de gens qui sont en train de chercher là-dessus, avec donc des chercheurs, mais aussi des acteurs culturels. Il y a des gens comme l'Augure Lab numérique qui réfléchit à des prototypes qui soient sobres et non pas efficaces, puisque tout l'enjeu là-dessus, et ça c'est ça que nous pose comme question l'IA, c'est un système efficace. C'est-à-dire, on va consommer à terme moins d'énergie pour produire la même chose avec l'IA qu'on en consomme aujourd'hui. Mais ce n'est pas un système sobre, puisqu'un système sobre, c'est considérer qu'on a une quantité donnée d'énergie, de ressources et de pression sur la biodiversité avec laquelle on va faire des trucs. Et aujourd'hui, on n'est pas dans ce positionnement-là de prise en compte de ce qu'on a, en fait, tout simplement, et de ce qu'on va pouvoir faire avec. Donc la question, c'est comment on réussit à tenir ces deux bouts de la chaîne-là, en ayant conscience que cette immense masse de données, c'est pas que de la donnée immatérielle, c'est de la matérialité. C'est-à-dire, le numérique, c'est de la matérialité. C'est des câbles, c'est des matières premières, c'est des ressources, etc. etc. Et voilà, dans la question, c'est comment dans ICAR on prend en compte tout ça. Je suis désolée, je plombe un peu l'ambiance, mais c'est quand même une réalité, quoi.
Non, mais évidemment, mais alors justement...
C'est pour ça, en fait.
Mais alors, Rémi, Susan, je l'ai dit au début, vous travaillez notamment sur les imaginaires futuristes. Et justement, de ce point de vue, les nouvelles technologies sont à la fois... peuvent être vues évidemment comme une menace, mais sont en même temps un vivier du point de vue de l'imaginaire incroyable, en fait. Et peut-être pas seulement pour de la dystopie, d'ailleurs.
Oui, non, pas seulement pour de la dystopie. C'est vrai que la mode est à la dystopie actuellement, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est une boucle, ce rapport entre l'imaginaire et les technologies. C'est-à-dire qu'effectivement, bon, bien sûr, les imaginaires s'emparent de ces nouvelles technologies et imaginent des choses, mais des fois, c'est l'inverse. Personnellement, j'ai coutume de penser, par exemple, que le summum de la culture Internet, c'est 1992. Alors vous allez me dire, mais quoi ? En 92, tout ce qu'on avait, c'était des BBS par téléphone. Il y avait bien sûr les universités qui s'envoyaient, qui utilisaient déjà Internet sous une forme d'ailleurs extrêmement primaire, puisque je crois que le web venait d'exister, mais alors c'était vraiment à un niveau, bon, ouais. Donc effectivement, et qu'est-ce qui s'est passé en 92 ? Il y a eu, Laurent en a parlé tout à l'heure, il y a eu d'abord le mouvement Cyberpunk en 85, et il y a eu, dans les années 91-92, une espèce d'effervescence autour de la cyberculture, autour notamment d'une revue qui s'appelait Mondo 2000, qui a été extrêmement importante parce que ça a fédéré toute une culture de hackers, d'auteurs de science-fiction, d'artistes, etc. Et vous avez le Mondo 2000 User Guide, qui est, c'est un terme très, très, très informatique d'ailleurs, User Guide, et vous avez toute cette culture qui est exposée. Et c'est un dictionnaire, et le mot Internet n'y figure pas. Donc, et c'est là pourtant que tout a été élaboré. Et ensuite, ce qui se passe, c'est la boucle inverse. C'est-à-dire que Marc Andreessen, quand il a créé Mosaic, qui a été le premier navigateur Internet avant que ça devienne Netscape, puis aujourd'hui Firefox, il avait lu Gibson. Et Gibson, comment est-ce qu'il avait écrit son livre sur le cyberespace ? Je ne sais pas si vous connaissez Gibson, qui est donc l'auteur scientifique, l'auteur, pas du tout scientifique d'ailleurs, l'auteur de science-fiction qui a écrit le premier sur ce qu'on appelait à l'époque le cyberespace. Je ne sais pas si vous vous souvenez de l'expression cyberespace, parce qu'elle a l'air déjà tellement antique. Et en fait, Gibson, bon, bah, il a écrit son bouquin neuromancien quasiment dans une cabane, je crois, avec une machine à écrire toute pourrie, etc. Et il n'avait jamais touché un ordinateur de sa vie.
Et le bouquin était bourré d'IA, d'ailleurs.
Et le bouquin était bourré d'IA, parce qu'en fait, le sous-texte de tout neuromancien, c'est pas tant le cyberspace qu'effectivement l'accession à la super-intelligence de l'IA, mais bon, ça, c'est un autre sujet. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais interviewé quelqu'un qui était dans le milieu de la réalité virtuelle, qui s'appelait Scott Fischer. Alors, à l'époque, la réalité virtuelle, c'était vraiment des gens qui... c'était des labos, hein, c'était pas du tout quelque chose qui était accessible. Et je lui ai parlé de neuromancien, et il m'a dit « Ah oui, on croyait que c'était un membre de l'équipe qui écrivait ça sous un pseudonyme, peut-être Marvin Minsky. » Alors, pour préciser, Marvin Minsky, c'est l'un des deux grands créateurs de l'intelligence artificielle. Il y a Mark Carty et il y a Marvin Minsky. Donc, effectivement, l'imaginaire crée de la technologie aussi. Et donc, aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'il y a une, pour employer une expression de Nicolas Nova, qui écrit beaucoup dessus, il y a un peu une panne des imaginaires, avec effectivement une invasion des idées dystopiques. Je pensais il y a quelque temps que effectivement c'était peut-être la dystopie qui avait un petit peu freiné la science-fiction, le goût pour la dystopie, parce que bon, beaucoup de gens le disaient. Mais en y réfléchissant, je me rappelle que les auteurs des années 70, genre Dick, Zelazny, Shakley, etc., étaient tout aussi noirs et caustiques que les auteurs d'aujourd'hui, et ils étaient beaucoup plus créatifs. Et je reviens sur le sujet tout à l'heure quand je disais le problème des marges et le problème de la pop culture. Je pense que le gros problème de la science-fiction aujourd'hui, c'est l'accès à la respectabilité. C'est pas le problème de la dystopie ou de l'utopie, c'est que quand c'était dans des pulps, et même un Dick qui est considéré aujourd'hui comme un dieu de la littérature écrivait dans ses pulps et dans ses petites revues, il pouvait se permettre de partir dans des directions qu'aujourd'hui les gens n'osent plus explorer parce qu'elles sont trop dingues. Et je pense que c'est pas tellement un problème de dystopie-utopie qu'un problème de, je dirais pas de censure parce que c'est très politique, mais d'auto-restriction, de vouloir avoir l'air d'être un auteur sérieux, etc. Et je pense que c'est le vrai problème qui touche un certain nombre de sous-cultures qui accèdent trop vite à la respectabilité.
Laurent Courreau, peut-être en réaction là-dessus, sur le côté, enfin sur ce que vient de dire Rémi Susson, puis sur cet aspect menace versus ou pas versus, mais en tout cas et ressources potentielles. Et autre question, non mais sur le fait que il y a tous les dangers, les remises en question, les risques, etc., qui sont liés à l'usage des nouvelles technologies du point de vue des ICC, mais aussi peut-être que ça représente aussi des outils, des viviers, comme on disait, d'imaginaire, même si tout ça est une boucle. Et l'autre question pour vous aussi, c'est dans ce contexte-là, dans cette situation-là, le fait, par exemple, de faire de mutation un magazine qui soit aussi papier, ça correspond à un moment de raisonnement pour vous qui va dans quelle direction, en fait ?
Bah, mutation papier, c'est tout simplement parce que quand on a commencé avec Rémi à faire la spirale, entre autres, au milieu des années 90, hein, les gens lisaient encore sur Internet. Hein, les réseaux sociaux n'existaient pas, puisque Facebook, c'est 2008, hein, si je ne dis pas de bêtises. Hein, et 2004, hein. Bon, donc en tout cas, à partir de 2008, ça a vraiment été l'emprise des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, les gens lisent de moins en moins en numérique. Hein, et je pense qu'il y a besoin d'un rapport à l'objet papier et à un contenu qu'on peut avoir proche de soi et un rapport presque sensuel. Hein. Au contenu, j'ai envie de dire. Et ça me semble assez important. D'autant plus que Rémi évoquait les questions de censure. On voit avec les IA qu'elles sont quand même extrêmement bridées. On ne peut pas faire tout un tas de choses. Sur les réseaux sociaux également, on ne peut pas publier tout un tas de choses. Donc finalement, échapper à cette mainmise des GAFAM, ça passe entre autres par des méthodes traditionnelles, j'ai envie de dire, presque un peu antiques aujourd'hui. Et donc le papier en fait partie.
Thierry Murat, je ne sais pas si vous voulez réagir aussi à ce qui est par rapport à tout ce qui a été dit avant qu'on échange avec la salle.
Ouais, à la censure, au manque de folie dans l'imaginaire, au fait que Kadik n'a jamais été remplacé, qu'il n'y a personne qui casse. Il faut pas être trop. Ouais. Qu'est-ce que je peux rajouter par rapport à.
Pas, non, mais c'est sur cette. Parce que donc, tout à l'heure, ouais. on est passé peut-être un peu vite, mais c'est vrai que vous avez eu En l'occurrence, le sentiment d'être censuré, on peut dire ça comme ça.
Ouais. En bout de course, parce que avant l'expérience créative que j'ai vécue pendant cinq mois était vraiment passionnante, enthousiasmante. Et puis en plus, avec du soutien éditorial, j'avais pas l'impression de faire un truc dans mon coin totalement interdit, pas éthique, super cringe, etc. Non, j'étais dans une démarche éditoriale planifiée. Ça, c'est déjà le cadre, c'est déjà chouette. Et en plus, moi, dans mon fort intérieur, dans ma petite grotte, j'ai vraiment vécu des trucs incroyables de dialogue entre un humain et une machine, voire testé. Enfin, ça paraît ridicule aujourd'hui parce que tout le monde a testé ChatGPT, tout le monde a testé ça, mais moi, je testais ça au tout début. ChatGPT n'existait pas encore et mon métier, c'est l'image. Enfin, moi, je suis dessinateur depuis presque toujours. Et là, je me mettais à discuter avec un robot, une espèce de truc qui est je ne sais où en Californie et qui me renvoyait des images telles que je lui demandais, telles que plus ou moins je les imaginais. C'était assez proche parce que le facteur verbal chez moi est très important dans le ça passe par là quand je crée une image. Je me la mentalise très fort avant de la produire. Donc du coup c'était passionnant de voir comment avec des mots, avec le verbal en retour, en feedback, la machine nous renvoyait une image. Moi, j'ai trouvé que c'était une aventure passionnante, quoi, en fait, tout simplement.
Mais il y a quand même une vraie question sur d'accélération, de rythme, de tempo, parce que vous nous dites à l'époque, c'était les tout débuts, machin. Maintenant, tout le monde l'a fait. C'était 2022, quoi. Donc,
Oui, non, mais.
Non, mais donc, comme quoi, c'est quand même aussi quelque chose qui va très, très vite.
Il y a Paul Virilio qui a fait des bouquins sur l'hypervitesse et c'est. Non, moi, ça me fait flipper. Je prends acte et je prends conscience de plus en plus de cette hypervitesse. Quand je vous parlais tout à l'heure, c'est vous qui me rappeliez l'état physique dans lequel j'étais au bout de 5 mois de boulot en bossant avec une IA, épuisé, lessivé, limite dépressif. Enfin, non, ça va trop vite. C'est vraiment trop rapide. Je pense qu'on est sur ce décalage de temporalité, il est extrêmement grave, quoi. Mais pas que là-dessus, pas que sur ces problèmes de création, etc. Le décalage de temporalité entre l'humain et le non-humain, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je sais pas comment on va pouvoir régler ça. Oui, en fait, c'est logique, hein.
Cette accélération, elle pose un problème écologique et elle pose aussi un problème de relation de l'humain à son temps, à celui qui est la temporalité de l'humain dans son environnement et son écosystème. Et cette accélération de la machine, elle va nous poser problème sur le plan écologique, mais elle va aussi nous poser problème sur le plan psychologique. On ne peut pas aller aussi vite, en fait. Donc la vraie question, c'est nous, comment, en tant que chercheurs, on pense cette question d'une accélération qui n'est pas vivable, en fait. Elle ne l'est pas à aucun point de vue. Et donc, comment est-ce que, par le biais de l'acte artistique et par le biais de la protection de cet acte artistique, on repose une question de ralentissement et de sobriété? Je pense que c'est une vraie question de recherche, pour le coup.
Oui, j'ai une petite précision en reprenant cet exemple, c'est qu'en fait, la vitesse, elle est surtout venue de l'éditeur qui te stressait, en fait, quelque part. Et c'est pas nouveau. Moi, je veux dire, le nombre de deadlines où je sors complètement lessivé, c'était avant l'arrivée de l'IA.
C'est une combinaison de deux facteurs qui ont généré cette hypervitesse.
On finit peut-être avec...
Au vu de toutes vos réflexions, j'ai envie de vous dire qu'il y a actuellement un essai qui est sorti d'Alain Damasio, Silicium, qui me semble-t-il a anticipé depuis pas mal d'années avec ses questionnements en format science-fiction, on pourrait dire, dans les créatifs, mais qui là, avec son essai, il passe une étape différente et je trouve qu'il est... Il y a un certain nombre de choses qui
sont à propos de... En fait, bon, il y a plein de défauts épistémologiques dans son ouvrage, mais néanmoins, il a pris une position de chercheur. Il a pris une position de chercheur.
Avec une nouvelle à la fin, quand même.
Non, mais on peut dire ça comme ça ?
Et cette notion d'émancipation aussi des nouvelles technologies, c'est-à-dire c'est pas vader rétro satana, c'est on regarde, on voit, on utilise, on essaie de s'émanciper de ces nouvelles technologies.
On a une posture critique, ça s'appelle.
Comment ?
On a une posture critique, ça
s'appelle. Oui, mais on voit bien qu'elle n'est pas évidente, cette posture. Il y a un manque de discernement quand même, vraiment un peu qui font que... Il y a d'abord la fascination par rapport à ces logiques, il y a la fascination Et après, il serait question de s'émanciper. Est-ce que ça passera par la création et... C'est possible.
Moi, je suis ingénieur de son. J'ai découvert Suno il y a un an. Je suis de malade pour faire de la musique. Ça va mettre toute la musique au kilomètre, la musique commerciale. Tout ça, ça va être un fait par ordinateur, d'accord. Mais donc j'ai halluciné, ça permet un processus créatif de rebondir sur autre chose parce que ça donne des idées, ça fait penser. Mais à un moment, je me suis posé la question de l'odeur. Vous n'en avez pas parlé, vous deviez en parler, je crois, non ?
Bah, si, on a essayé.
Maintenant, il y a des chanteurs pour devoir se justifier qu'ils ont bien fait, qu'ils ont bien chanté. C'est déjà été le cas pendant un temps, mais pour devoir continuer. Donc il y a un problème de l'auteur, les droits, tout ça.
Ça va être encore une fois un problème humain, ça va être. Ouais, ça va être une saloperie humaine qui va systématiquement semer le doute, mettre en défaut une parole d'artiste qui va dire non, moi c'est vraiment moi qui l'ai fait avec mes mains, je l'ai fait avec mon âme à ma table de travail. Et il y aura toujours des fâcheux en face qui vont mener de la suspicion à cause de l'arrivée des IA. Et ça va devenir pratiquement automatique. Et ça, je le vois venir gros comme une maison. Tout artiste va devoir se justifier de plus en plus qu'il a vraiment fait cette œuvre lui-même, toute seule. Et ça est... Pas confondre les fake news et les œuvres de fiction. Ça, c'est tout autre chose. Ah, le fait que ce soit faux. C'est pas fake, une œuvre d'art qui est faite avec sincérité, un artiste qui se met à prompter et qui crée une œuvre numérique avec une IA. C'est pas un faux. C'est mais c'est vrai, un photographe qui fait une photo, il fait pas un faux. C'est pas alors qu'il n'a pas tenu un crayon, il a pas pris un pinceau, il a pas pris de la peinture, il a appuyé sur un bouton sur une putain de machine qui est donc il fait pas un fake non plus un photographe depuis le début du 19e.
Bah, on peut remonter aux grottes de Lascaux d'ailleurs. Hein.
C'était quoi votre...
C'est le fait qu'on devoir se justifier qu'on a bien créé une œuvre, ouais. Etc. Et que l'inondation de choses fortes rejoint ce que vous disiez, le fait que...
c'est pas la faute à la machine, malheureusement. C'est l'humanité qui est comme ça, et il va y avoir des fâcheux, et les artistes vont devoir de plus en plus se justifier. Et ça, c'est dramatique, je trouve. C'est dramatique. Parce que juste se justifier de quoi, en plus ?
Une question de traçabilité
de quoi ?
Justification de son auteur, qui est peut-être un peu plus compliqué.
Traçabilité de quoi ?
Du droit d'auteur.
De quel droit d'auteur vous parlez ?
Traçabilité, ça veut dire en revenir finalement à une nouvelle norme, hein, à d'autres normes.
Hein. Traçabilité des données ?
Traçabilité, du coup, ça revient à ça, traçabilité des données, donc de l'auteur, donc du certificat de l'auteur. Hein.
C'est moi qui suis auteur. Ouais. C'est peut-être effectivement pour le client plus compliqué à conceptualiser la notion d'auteur à travers les IA que effectivement appuyer sur.
En tout cas, je pense qu'il y a un point. Il y a un point sur lequel on peut tous être d'accord, c'est que ça doit être un sujet de recherche et que ICAR doit en être le lieu. Ça, c'est sûr. Pas sûr qu'on répondra aujourd'hui, mais par contre, il faut chercher, ça, c'est sûr.
Ah non, parce que j'ai passé 5 mois de ma vie à arrêter de dessiner. Enfin, ça m'arrive souvent dans ma vie de passer des grandes périodes où je dessine pas. Hein. Je suis dessinateur de métier. Oui, c'est mon métier depuis 20 ans. J'ai publié une dizaine de romans graphiques depuis 20 ans. Et donc c'est vraiment c'est mon métier, mais c'est pas mon quotidien le dessin. C'est autre chose. C'est comme si je faisais du rock garage, et puis que je me mettais à faire un disque électro. Je me poserais pas la question. Je sais pas. C'est chouette aussi les deux. Bah après. Une aventure de plus. Ouais, de toute façon, dans mon parcours d'auteur, je fais jamais le même livre, je fais jamais la même chose, jamais les mêmes techniques, j'essaye différentes choses. Et je suis pas bloqué sur un truc. Après, est-ce que je vais pérenniser cette histoire de création avec l'IA ? Ça, c'est une autre histoire, c'est une autre aventure. Mais certainement, parce que c'est là, on va pas pouvoir faire comme si ça existait pas. Et puis c'est quand même super. Après, il y a toute une hybridation à mettre en route, je pense. On peut pas, comme disait Laurent, c'est un peu dommage de se contenter du produit brut que nous amène l'IA, parce que surtout quand on est dessinateur, qu'on sait ce que c'est que la peinture, qu'on sait comment réagissent les outils matériels de dessin, pourquoi se priver ou qu'on maîtrise Photoshop parfaitement, pourquoi se priver de la retouche ou du remaniement de l'image ou de la mais pour la recherche de... Non, je pense que les grands gagnants de l'histoire, c'est les métiers de la communication visuelle aujourd'hui. Eux, ils ne se posent pas toutes ces questions-là. Ils y vont, ils sont à fond. Et ils sortent du brainstorming avec le client. Ils passent direct en phase de recherche sur les pré-maquettes et pour trouver des idées de nouveaux visuels, etc. Et puis, on parlait tout à l'heure du monde du luxe et de la mode. Alors, eux, ils sont au taquet, mais on n'imagine même pas, pour rechercher des nouvelles formes, des nouvelles tendances, des nouvelles esthétiques.
Ça dépend à quel niveau, hein. Je pense qu'en termes de. Ça va être la bérésina totale en termes de RH, quoi. Ça va être. Ça va être.
En termes de RH, c'est le problème majeur, effectivement, des industries culturelles. Hein. Ça va laisser énormément de monde sur le carreau. Et en même temps, comme c'est extrêmement énergivore, hein, ça va être très compliqué aussi, parce que produire des films par IA, je veux dire, le coût de la production de films, hein, va être complètement délirant.
Mais c'est déjà le cas. Il n'y a pas besoin de GIA. C'est déjà le cas.
Ce sera pire encore. Hein.
Oui, mais c'est déjà une catastrophe écologique.
Mmh. J'aurais une question. Donc vous parliez, Rémi Soussan, tout à l'heure du fait que les imaginaires, en fait, avaient précédé ces nouvelles technologies. Est-ce que aujourd'hui, ces nouvelles technologies ne pourraient pas être un danger pour la création, notamment par exemple peut-être une normalisation de la création?
Je pense que c'est chaque nouvelle technologie qui arrive a ses mauvais côtés et ses bons côtés. Hein. Le problème je reviens au problème des fakes tout à l'heure pour donner un exemple de ce qui se passe, qui n'est pas tellement un problème de l'IA en tant que technologie, mais de mauvais usage de l'IA. Vous avez actuellement sur Amazon des tas de bouquins qui n'ont pas été écrits par l'auteur qui l'a signé, et qui ont été générés par IA. Alors, je dis, c'est pas un problème de l'IA, parce qu'Amazon pourrait faire gaffe. Mais, par exemple, vous avez l'un des meilleurs auteurs sur l'IA, justement, qui s'appelle Ethan Mollick, qui parle d'un livre à un moment dans un tweet, qui dit « Je n'ai jamais écrit ce livre, je ne sais pas d'où il sort ». Et donc effectivement il y a ce problème. Alors est-ce que ça peut nuire à la création? Moi je me situe plutôt sur la même lignée que toi ou Laurent, c'est-à-dire que bon, je pense que tôt ou tard va y avoir de nouveaux types, c'est ce que tu disais tout à l'heure, de nouveaux types de création. Alors bien sûr il va y avoir une normalisation, mais je dirais c'est quelque chose qui s'est passé à chaque fois. Je veux dire, souvenez-vous de l'époque où on disait la télé c'est vraiment un truc qui rend les gens débiles, etc. Et en 1912 il y a des textes sur le cinéma qui disent ça. Et remontant à Erasme, où il disait, oui, l'arrivée de l'imprimerie, c'est une catastrophe pour la pensée humaine. Et Platon, qui était vraiment un hypocrite, puisqu'il a écrit énormément, mais mettait dans la bouche de Socrate que l'invention de l'écriture, c'était une catastrophe. Donc, effectivement, bon, il y a toujours... Et quelque part, c'est jamais faux. Quelque part, c'est jamais faux. Par exemple, c'est vrai, Erasme avait raison, il y avait tout un développement culturel autour de ce qu'on appelait l'art de la mémoire, etc. Toute une... pensée qui culminait à la philosophie et à la théologie autour de la notion de mémoire, qui s'est effondrée avec l'arrivée de l'imprimerie et qui n'a pas été remplacée. C'est un vrai problème. Mais ça ne veut pas dire que d'autres choses ne sont pas venues. Et je pense que pour l'IA, et quand on parle de l'IA, parlons aussi des mondes virtuels, etc., et de toutes ces choses, de nouveaux types de créations vont apparaître. Mais c'est vrai qu'il y aura aussi des choses qui vont être complètement banalisées.
Pour l'IA, il est peut-être encore un peu tôt, effectivement, on n'a pas assez de recul. Hein. Mais par contre, on peut dire qu'historiquement, les périodes de crise hein, ont toujours été très riches hein, en termes de propositions artistiques et culturelles. Hein. C'est valable de tout temps.
Mais là, standard. Dans les dystopies, enfin, je veux dire, de création, enfin, je rejoins tout à fait ce que vous dites, hein, du timbre à tout. Sauf que là, il y a quand même deux notions à prendre en compte qui sont la perte de contrôle des algorithmes. C'est-à-dire que même aujourd'hui, il y en a qui avouent que
chiringole, mais je ne sais plus comment. J'ai plus de mainmise dessus à gérer, que ce soit les traders pour le monde de l'économie ou pour le monde des industries culturelles. Et deux, à quel moment le seuil. Parce que là, on dit que l'IA aujourd'hui ne fait reprocher que ce que l'humain a mis sur Internet et remodélise un texte. À un moment, il va y avoir un seuil où il va y avoir de l'apprentissage, il va y avoir une autogénérescence, et il va y avoir de l'intelligence qui va s'inscrire, qui va s'insérer, et ça va dépasser. Et là, Et là, je pense que là, on arrive à un autre seuil qui n'a rien à voir avec les autres sous-technologies.
Enfin, pour l'instant, nous n'y sommes pas encore, a priori, mais...
C'est pas de l'anticipation, enfin, ça a déjà été... On y va, on y court, quoi.
Le fait que les algorithmes de réseaux neuronaux soient opaques, c'est une certitude. Hein, c'est-à-dire que on ne sait pas, effectivement, comment... c'était pas le cas avec les intelligences artificielles, entre guillemets, des années 80-90, qui étaient basées sur des systèmes logiques qu'on appelait les systèmes experts. Un réseau neuronal en deep learning, on ne sait pas pourquoi et comment il arrive à cette conclusion. Ça, c'est vrai. Et c'est pour ça, je pense... Alors ça, je pense que c'est très important... ce qu'il faut comprendre, et qu'il y a vraiment quelque chose qui est central là-dessus. Vous avez deux usages de l'intelligence artificielle. Vous avez l'usage génératif et l'usage classificateur. Et ce qui est inquiétant, c'est l'usage classificateur. C'est-à-dire demander à une IA de reconnaître quelque chose et de prendre une décision à partir de quelque chose. Ça ne marche pas. Ou alors ça marche de façon catastrophique. Et effectivement, il y a cette question. Bon, par exemple, mon ex-collègue d'Internet Actu, Hubert Guillot, s'est beaucoup penché là-dessus. Par exemple, sur vous voulez souscrire une assurance ou même vous cherchez un emploi et c'est l'IA qui décide. Et elle va décider de manière pas plus intelligente qu'un astrologue ou un graphologue. Il faut dire les choses très clairement. Seulement, bon, c'est rassurant de savoir que la machine a choisi. Maintenant, l'IA générative, c'est autre chose et c'est pour ça qu'elle marche. C'est-à-dire que l'IA générative va vous proposer des tas de solutions. Mais qui est celui? Et c'est ça qui est intéressant. Vous ne savez pas comment elle arrive. Vous ne savez pas. Vous n'avez pas le contrôle de l'algorithme, c'est vrai. Vous ne savez pas comment ces choses se font. Mais vous voyez le résultat et c'est à vous de dire « j'en veux, j'en veux pas ». Et je pense que c'est très important d'avoir cette culture. Et ça, c'est, on parlait des nouvelles cultures, c'est savoir qu'on va se trouver aujourd'hui face à ce qu'on appelle des systèmes complexes. Et les systèmes complexes, ce n'est pas que l'IA, hein, ça existe depuis toujours. Toutes les sociétés, toute la biologie, ce sont des systèmes complexes. Notre logique n'est pas adaptée aux systèmes complexes. Et là, on a créé des systèmes complexes. Il va falloir savoir comment gérer, utiliser ces systèmes complexes. Et ça aussi, c'est une nouvelle forme de culture qui est nécessaire d'élaborer, en fait.
Merci pour votre présentation à chacun. Moi, je voudrais savoir, pour renouer avec la question de la place de l'auteur, du créateur, sa responsabilité là-dedans, tout en sachant que vous avez dit que, de toute façon, une création, qu'on ne parle jamais de rien, une création n'est jamais ex nihilo. Ça m'a beaucoup intéressé, notamment sur les vieux débats. Avec des penseurs et pas que, des artistes aussi, dits post-modernes, avec cette question-là de vouloir effacer la place de l'auteur, ou questionner par l'intertextualité vraiment la responsabilité de l'auteur dans la création. C'est des débats, même en anthropologie, qui se sont posés, qui me passionnent actuellement, et je voudrais savoir, alors moi c'est ma place de chercheur, hein, j'ai une tête de marteau, je vois un coup partout. Donc je pose des questions en tant que chercheur. Moi, je voudrais savoir, en tant que, plutôt pour les créatifs comme vous, est-ce que vous vous posez la question de ce que vous faites et de la manière de le faire aujourd'hui, est-ce que vous allez chercher vers cette littérature ou pas du tout? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous allez interroger la littérature scientifique pour essayer de mieux comprendre ce que vous êtes en train de faire dans cette infrastructure numérique? Ou alors pas du tout, ça ne vous intéresse pas du tout. Ce qui vous intéresse, c'est vraiment de créer, quoi qu'il en soit, qu'importe les conditions dans lesquelles vous faites.
Bon, alors ça va être différent pour chacun. Dans mon cas, c'est ce qu'on fait au travers de Mutation Magazine. Hein. Donc on cherche vraiment à mettre ensemble des scientifiques... et des artistes, hein, et donc de les faire se parler et d'essayer de trouver de nouvelles, de nouvelles narrations de l'époque même, j'ai envie de dire. Hein. D'essayer de trouver des portes de sortie, des voies alternatives, hein, de sortir des autoroutes, de prendre des chemins de traverse. Hein. Donc, dans mon cas, je le fais. Après, libre à chacun. Et je pense que de toute façon, l'auteur doit être libre avant tout, et on ne doit pas lui donner de conditions sur la manière de créer. Dans mon cas, en tout cas, la réponse est oui.
Oui, ta question est intéressante parce qu'elle est en plusieurs temps. Alors sur l'aspect des auteurs postmodernes qui se questionnaient déjà sur la mort de l'auteur, on pense évidemment à Roland Barthes, à Foucault aussi qui réfléchissait beaucoup à ça. Mais ça c'est arrivé finalement, ces gens-là, Barthes et Foucault pour citer qu'eux, mais prophétiser un petit peu la chose, parce qu'on était quand même dans les années 50-60, on avait le culte de l'auteur et on avait cet attachement à un nom sur une couverture de livre, c'était hyper important. Et puis patatras, moi c'est en même temps pas si vieux et c'est pas si récent, enfin je veux dire, moi je daterais ça Love Story quoi qui arrive, et là on se retrouve avec un film. Non, mais un film sans réalisateur, sans auteur, sans acteur, sans spectateur, enfin un truc. Ouais, non, mais l'horreur. Premièrement, pour rebondir sur ton intervention, et puis deuxièmement, sur moi, mon statut d'auteur en lien avec le monde de la science, il est. J'arrive pas à l'analyser, à le théoriser, mais je pense qu'il y a un lien hyper fort qui est plus de l'ordre de moi c'est l'aspect poétique qui me porte dans l'histoire. C'est votre vocabulaire, que ce soit chez n'importe quel domaine de recherche, hein. Chez les astrologues évidemment, mais aussi chez les sociologues et puis chez les philosophes mais même chez les biologistes. Enfin bon, je trouve qu'il y a un vocabulaire, et puis je trouve que c'est pour moi porteur toujours de poésie le mot, la sonorité du mot, et puis ça m'évoque des choses. Alors après j'essaye de, lorsque je vais piocher dans ce vivier-là, j'essaye de pas prendre uniquement le mot en tant que forme et comme un pauvre matériau, comme un caillou. Non, j'essaye d'y mettre du sens dans ce que j'écris. Mais ouais, moi, je suis assez en relation avec tout ça. Ouais, ça me porte dans ce que j'écris. Après, j'ai pas fait d'études scientifiques, mais ça me porte beaucoup. Ouais. Mm-hmm. Je sais pas si on a fait le tour. Ouais.
Donc en fait, dans la mesure où Dédale est quand même un programme qui est tourné aussi vers les cultures alternatives et les contre-cultures, est-ce que vous pourriez nous parler, notamment vous, Rémi Suissant, des contre-cultures qui sont nées des nouvelles technologies ?
Tout à l'heure, j'ai parlé de Mondo 2000 et de la culture hacker, etc., qui a été très, très, très importante. Mais effectivement, ce qui est intéressant, c'est, revenons aux années 60, vous avez le mouvement hippie, le mouvement beatnik, etc., qui est entièrement basé, en fait, sur des innovations technologiques. Il y a d'abord une première innovation technologique qui va faire un bruit énorme, des scientifiques et des militaires, etc., dans les universités de Stanford et d'autres, vont se poser des questions sur un produit chimique qui a été inventé en 1943, par un certain Hoffman, qui vont commencer à faire des recherches et à distribuer ce produit, qui est donc le LSD-25, à différents membres en Californie, de ce qu'on appelait la Bay Area, en fait, et notamment les auteurs beatnik, etc. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient un peu de sous, hein, chaque fois. Donc, effectivement, vous avez comme ça l'introduction d'une première technologie, qui est celle des drogues psychédéliques, donc qui a donné naissance au mouvement hippie. Des choses moins controversiales, vous n'auriez pas pu avoir la contre-culture des années 60-70 sans la pilule, sans les contraceptifs. C'est aussi quelque chose qui a complètement changé la nature des rapports humains. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui a eu une influence. Et la télé aussi, et les médias, etc. Vous avez le grand prophète des années 60, c'était Marshall McLuhan. Et effectivement, par exemple, pour quelqu'un comme Stewart Brand, par exemple, qui est une grande figure à la fois de la contre-culture et de la culture, je dirais, il y avait beaucoup de liens, en fait, entre la contre-culture et la culture beaucoup plus corporate, voire complexe militaro-industrielle, comme j'expliquais tout à l'heure. Il y avait beaucoup de liens, et Stewart Brand se trouvait au milieu de tout ça. Et par exemple, Stewart Brand a créé le premier festival rock en s'inspirant de Marshall McLuhan, en disant qu'il s'agit de créer une culture électrique basée, de créer la culture électronique, etc. Et il a créé le Trip Festival, qui était donc le premier dans les années 60-65. C'est le premier grand festival rock, en fait, de l'histoire du rock'n'roll. Donc vous voyez effectivement que toutes les années 60, en fait, sont autour de révolutions technologiques. Je pourrais continuer avec John Lilly, par exemple, qui a écrit Programming and Metaprogramming, the Human Biocomputer, qui va faire le lien entre le cerveau humain et l'ordinateur. Cerveau. Lien qui est beaucoup plus contesté et beaucoup moins accepté aujourd'hui, mais enfin qui a été très important dans les années 60, justement à la suite d'expériences avec le LSD, etc. Donc vous avez toujours ce lien entre technologie et contre-culture qui, ou effectivement, s'inspire de ces technologies et les utilise et les détourne. Hein,
c'est sans fin. Sans les synthétiseurs, il n'y a pas de New Wave. Hein. Voilà. Sans la photocopieuse, il n'y a pas de fanzine. Hein. Sans la guitare électrique, le rock'n'roll, c'est plus compliqué. Sans l'ordinateur personnel, la musique électronique, les rêves parties, la techno des débuts, ça n'existe pas trop non plus. Enfin,
c'est et j'ajouterais pour l'IA que sans le jeu vidéo, pas d'IA. Parce que de toute façon, comment fonctionnent aujourd'hui les IA ? Elles fonctionnent avec des cartes NVIDIA, qui sont des cartes graphiques. Et pourquoi est-ce qu'NVIDIA fonctionne et pourquoi est-ce qu'il y a des cartes graphiques ? C'est parce qu'il y a des games.
Oui, et puis le fond de données images des jeux vidéo est colossal. Hein. Après, si à ça on rajoute le fond cinématographique, il y a une base de données qui est colossale et abyssale pour nourrir les algorithmes et leur permettre de générer... ce genre d'image, hein, et tant d'autres. Et peut-être on peut finir sur un point d'interrogation. Je sais pas, peut-être une question que tout le monde se pose, c'est sur la dégénérescence de tout ça, parce qu'on parle beaucoup, on a peur de l'intelligence artificielle générale dont on nous parle beaucoup. Mais moi, je suis convaincu que ça va être l'inverse, qu'on va assister à une dégénérescence, et c'est peut-être déjà parti. Le processus, c'est-à-dire que la machine se nourrit de ce qu'elle a elle-même produit. Donc, en biologie, on sait ce que ça peut donner, ce genre de hein, ouais. Ben, il y a l'autophagie, puis il y a la consanguinité. Enfin, il y a tout un tas de. On peut ramener ça en termes de comparaison. Enfin, moi, je suis pas très. Je pense que ça va très très vite. Non, l'intelligence artificielle générale qui va nous. C'est ça ne se peut pas. Mais ça ne se peut pas. C'est pas du. Non, mais ça se peut pas. C'est du. Enfin, si on peut se prosterner, on pourra tout se prosterner devant une machine puisqu'on en est capable. On est suffisamment stupide, mais. Mais se prosterner devant une machine qui est devenue humaine, non, ça c'est impossible.
Bon, merci beaucoup. On a entendu des verres, puis il y a le concert après, donc on arrête, mais merci.